Terre, le 18-20.
C'est un secteur qui, dit-on, fait la fierté de la France, économiquement, culturellement, et c'est pourtant un secteur en crise endémique. Depuis près de 30 ans, le monde agricole français, dans sa grande majorité, n'en peut plus. Dérégulation des marchés, surproduction, endettement, près de 20 000 emplois agricoles qui disparaissent chaque année dans notre pays, et de crise en crise, de gouvernement en gouvernement, et bien toujours les mêmes solutions, court-termistes, inefficaces. Alors est-il temps de changer notre modèle agricole? Est-ce que c'est possible, rentable? Le bio, les circuits courts sont-ils la panacée, le remède miracle? Et le consommateur dans tout ça? Et bien on pose toutes ces questions ce soir à une invitée unique, Christiane Lambert, nouvelle présidente de la FNSEA, première femme à prendre la tête du premier syndicat agricole français. Et on attend bien sûr toutes vos questions, vos commentaires au 01 45 24 7000, internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et c'est Michel qui ouvre ce téléphone sonne. Vous nous appelez du Pays Basque, Michel. Bonsoir, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir à tous. Je voulais simplement dire que ce n'est pas l'agriculture en soi qui est en crise. Il y a beaucoup de paysans, et j'en fais partie, et j'en connais beaucoup, qui se sentent bien dans leur peau de paysan. C'est surtout un problème de type d'agriculture, de modèle agricole qui va mal. C'est un modèle... Le modèle qui consiste à produire toujours de plus en plus, avec toujours plus d'investissements, toujours plus d'endettement, toujours plus d'énergie, d'eau, et un modèle qui est sous perfusion des engrais chimiques et des produits chimiques. C'est cette agriculture-là qui va mal, qui est en crise, qui coûte cher, qui pose des problèmes. C'est cette agriculture-là qui élimine toujours plus de paysans, qui détruit les territoires. Et je tiens à affirmer aussi que c'est cette agriculture-là que la FNSEA propose et impose avec ses satellites et ses lobbies. C'est ça le gros problème. Alors j'ai une question, un point central, simple, si le ministre nous entend, si ses conseillers, et peut-être demain c'est les futurs députés. Macron a annoncé qu'il mettra 5 milliards d'euros pour moderniser l'agriculture. La question elle est simple, est-ce que ces 5 milliards d'euros vont être utilisés pour aller vers une agriculture encore plus industrielle, encore plus intensive, ou est-ce qu'ils seront utilisés pour un plan de reconversion de l'agriculture vers une agriculture paysanne, une agriculture durable, une agriculture de qualité et de valeur ajoutée et une agriculture liée au terroir? Ça, c'est la clé. Ces 5 milliards d'euros, à quoi on va les utiliser? Pour aller dans la fuite en avant ou pour reconvertir?
Merci Michel pour cette première question. Ça commence fort. Mais écoutez, je ne sais pas si le ministre de l'Agriculture nous écoute. En tout cas, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, vous a écouté. Bonsoir Christiane Lambert.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous répondez donc à Michel, qui est lui-même agriculteur au Pays Basque. D'abord sur les modèles agricoles.
Ouais. Méfions-nous des généralités. Toute l'agriculture n'est pas en crise depuis 30 ans, comme vous l'avez dit nous aussi dans votre introduction. L'agriculture a vécu des crises. Certains secteurs sont en crise. Tous les secteurs ne sont pas en crise. Mais comme la médiatisation l'emporte très souvent et qu'on parle surtout de ce qui va mal, eh bien, on parle que des secteurs en crise. Interrogez aujourd'hui les producteurs de porc, les producteurs de lait de chèvre, les producteurs de fruits, de légumes. Ils vous disent pas qu'ils sont en crise. Donc, il y a des secteurs qui vont bien, il y a des secteurs qui vont pas bien. Et tout ça, c'est sous le vocable agriculture. Deuxième chose. Il y a des agriculteurs qui ont beaucoup investi et qui vivent très bien. Donc ce que dit ce monsieur est caricatural, les partisans, mais je devine à quel syndicat il appartient, à la façon dont il parle, faut pas raconter
c'est-à-dire
l'histoire.
On peut le dire, on est là pour tout
dire. C'est la théorie de la Confédération Paysanne qui dit « small is beautiful », on peut vivre dans des petites fermes, mais ce qu'on voit quand même, c'est que ce sont plutôt les petites fermes qui disparaissent et les fermes qui se regroupent, qui se restructurent, qui aussi optimisent, qui travaillent en commun, qui achètent du matériel en commun, qui pour réduire les charges. Ce ne sont pas les agriculteurs français qui ont choisi les modes de distribution. Depuis les années 60, les consommateurs font leurs courses où prioritairement dans les grandes surfaces. 85% de l'alimentation de notre pays est acheté en grande surface. Aujourd'hui, les consommateurs, surtout depuis l'affaire Findus, sont plus intéressés par d'autres modes d'achat. Tant mieux.
On veut de la qualité.
Exactement. Et nous répondons. Savez-vous que 25% des agriculteurs français font de la vente directe? Savez-vous que 25% des agriculteurs font des produits sous signe officiel de qualité? La France est championne d'Europe des produits sous signe officiel de qualité. Donc c'est aussi ça. Il n'y a pas un modèle. Au pays des 1000 fromages, il y a 1000 modèles. Moi, je suis producteur de porc. Il n'y a rien de commun avec mon voisin qui est producteur de lait, l'autre producteur de céréales, un qui est producteur de fraises, de vin. C'est extrêmement différencié.
Là, on va entendre, hein, parce qu'il y a une foule d'appels au standard, y compris de confrères à vous, Christiane Lambert, qui vont nous décrire leur situation.
Bien sûr.
Sont en pleine crise. Mais je voudrais juste qu'on...
J'approfondis un point, si vous voulez bien. Que disent les producteurs de lait qui manifestent en ce moment ? Mes producteurs de lait qui, en Bretagne, manifestent, disent quoi ? Le lait est payé trop peu cher en ce moment au regard des charges françaises. En France, on a l'habitude de demander toujours plus de règles, de normes et d'obligations, traçabilité, sanitaire, origine, mais tendanciellement, les prix sont tirés vers le bas. En réalité, ça fait 3 ans que l'Observatoire des prix et des marges révèle que les producteurs de lait et de viande vendent en dessous de leur coût de production. Pourquoi ? Parce que la pression extrême pour avoir des prix bas, le dogme du prix bas à la française, grande distribution majoritairement.
Donc la faute à qui ? La faute à la grande distribution d'abord.
Pour beaucoup, et c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Chalmin, président de l'Observatoire des coûts et des marges. Il faut resituer cette réalité. Deuxième chose, quand les frontières allemandes sont ouvertes et extrêmement perméables, et qu'il rentre dans la restauration hors domicile des poulets allemands, transformés par des salariés qui travaillent à 4 euros de l'heure, aucun poulet français peut être compétitif. Aucun. Ça veut dire que les distorsions au sein de l'Union européenne, distorsions sociales, environnementales, font qu'aujourd'hui, nos producteurs n'arrivent plus à être compétitifs et donc à être choisis par les acheteurs. Donc, il y a plein d'éléments qu'il faut analyser plus finement plutôt que de dire « small is beautiful et big is bad » et les 5 milliards de monsieur
voilà,
Macron.
J'allais y venir.
Alors, monsieur a mal entendu, hein, il ne va pas nous donner 5 milliards. Hein. Il faut investir 5 milliards pour moderniser l'agriculture et
avec
il y aura
un
des
soutien public
de 20%. Ouais. C'est-à-dire que c'est 20% qui seront soutenus pour faire de la modernisation. Chacun sera libre de choisir la modernisation qu'il voudra faire. Certains feront des réserves d'eau pour irriguer parce que le changement climatique nous complique la vie aujourd'hui. D'autres achèteront des matériels plus performants ou des robots pour gratter la terre dans leurs champs et éviter d'utiliser des produits phytosanitaires en quantité plus importante. Il y aura une très grande latitude de choix d'investissement.
Vous parliez, Christiane Lambert, à l'instant des producteurs de lait. Perrine nous appelle des Côtes d'Armor. Bonsoir Perrine, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour la qualité de vos émissions. Je suis biberonnée à France Inter depuis ma plus tendre enfance et je biberonne mes enfants à France Inter.
Formidable, merci.
Voilà. Madame Lambert, bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, je tenais à vous dire que je suis enchantée de voir une femme à la tête de notre syndicat. Mon mari est éleveur laitier, nous sommes trentenaires et je suis ravie pour ma part de l'élan que l'élection de M. Macron a incité en France et je voulais savoir quel levier économique vous pensiez activer pour augmenter notre rentabilité et comment peut-on se battre sur un marché qui n'est non plus européen mais mondialisé. Je ne pense qu'on ne pourra pas imposer un prix à des entreprises privées qui cherchent avant tout le profit et qui sont loin de toute autre considération humaniste à notre égard.
Vous en vivez correctement, si j'ose dire, Perrine ?
Non. Mon mari a un prix de revient qui est environ à 350 euros des 1000 litres de lait. Il est actuellement payé à moins de 300 euros. Donc mon mari se lève tous les matins, il me dit « Aujourd'hui, je me lève, j'ai des centaines de milliers d'euros d'encours sur la tête, parce qu'il est trentenaire, il commence et on a envie de réussir, et on a envie de faire perdurer l'exploitation familiale avec ses associés. » Et donc il me dit tous les matins « Je sais qu'aujourd'hui, je vais perdre temps dans ma journée. Toi, tu vas au travail, je suis salarié dans une entreprise, tu vas avoir ta paye à la fin du mois, mais moi je vais travailler et je sais que je vais perdre de l'argent. »
Merci beaucoup Perrine pour ce témoignage éclairant sur une situation que vivent bon nombre de vos confrères. Qu'est-ce que vous répondez à Perrine, Christiane Lambert ?
Perrine demande qu'est-ce que nous allons demander à M. Macron ? Nous avons fait 13 propositions pour les 200 premiers jours. M. Macron veut aller vite, ça tombe bien, nous aussi. Ça fait depuis 20 ans que nous disons « attention, l'agriculture française dévisse ». Nous étions un pays qui était le numéro 2 au niveau mondial, le premier au niveau européen, nous avons encaissé des surcharges administratives, des lourdeurs, des complexités qui font qu'aujourd'hui nous avons perdu en efficacité et en compétitivité. Le marché est têtu, on n'est pas dans le monde des bisounours. Les gens achètent ce qu'ils veulent acheter, on ne décide pas à la place des consommateurs, mais pour des raisons X, Y, Z, les consommateurs veulent aussi des prix accessibles et ça guide les prix vers le bas. Ce que nous demandons à M. Macron, c'est d'une part de nous aider à sortir du dogme du prix bas en France. Qui est le moins cher.com que l'on entend régulièrement sur toutes les publicités des grands distributeurs, surtout d'un qui est le moins cher.com, tire les prix vers le bas. Et si le lait produit par cet agriculteur en Bretagne est payé si peu cher, c'est parce qu'il y a une concurrence extrêmement violente en ce moment. Il y a eu une période de production plus importante, des volumes plus importants, les prix sont tombés.
Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire contre les mastodontes de la grande distribution ?
Il faudrait réguler parce qu'ils sont un peu sans foi ni loi pour certains d'entre eux, mais ils commencent aujourd'hui à mesurer que même leur modèle ne tient plus. J'entends le patron de Casino, le patron de Carrefour dire « cette course au prix bas tue aussi notre modèle ». Sur les 150 produits de base, ils disent « on ne gagne plus d'argent ». Donc je pense qu'il faut aussi dire aujourd'hui, si en France on a des niveaux de vie premium, qualité, sécurité, sécurité sociale, sécurité alimentaire, etc., ça a un prix. Quand vous décidez d'acheter des chaussures françaises, vous acceptez de les payer plus cher. Vous achetez une voiture française, vous acceptez de la payer plus cher. L'alimentation, c'est pareil. En France, nous avons des conditions de production premium, très très plus plus, traçabilité parfaite. Nous sommes le pays de la sécurité alimentaire, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Eh bien, il fait que les produits français soient choisis par les consommateurs. Voilà pourquoi nous nous proposons. Nous proposons un pacte économique et sociétal dans le cadre des états généraux de l'alimentation que propose M. Macron juste en arrivant. Ça va démarrer en juillet et se termine en septembre. Et donc là, nous allons demander aux consommateurs quelques centimes de plus, mais c'est 2 centimes sur la brique de lait qui ramène 10 centimes au producteur de lait sur son prix du lait et ça couvre les charges de Perrine et son mari.
Donc, on ne peut pas non plus accuser, c'est parce que je ne dis pas que vous êtes en train de le faire, mais on ne peut pas accuser non plus de tous les maux la grande distribution qui commence aussi à jouer le jeu du local, des circuits plus courts. C'est du marketing, c'est de la
c'est
com
beaucoup.
Ou
il y a les deux. Il y a les deux et ça dépend. Moi, je suis pas généraliste. Je vais pas vous dire ils sont tous méchants. Ouais. Dans la catégorie des grands distributeurs, certains ont compris que travailler avec les producteurs locaux c'est porteur. D'abord parce que c'est la demande des consommateurs. Donc de plus en plus, ils ont des rayons produits locaux, alliance avec les producteurs, produits du terroir, c'est d'ici, etc., etc.
C'est bien. Il y a pas de triche.
Mais parce que c'est porteur pour eux, ça augmente le flux dans leur magasin. Lorsqu'il y a des retours en centimes sur ces segments-là, nous y sommes favorables. C'est pas toujours le cas. Nous avons fait le constat année après année que sur 100 euros d'achat par un consommateur, quand vous dépensez 100 euros alimentaires, il y a 3 ans, 8,40 euros revenaient au producteur. L'année dernière, c'était 7,80 euros. Cette année, c'est 6,80 euros. 6,80 euros sur 100 euros qui revient au producteur. Le constat, il est terrible, il est celui-là. Donc, il faut aussi peut-être revoir les pleins pouvoirs donnés à la distribution en régulant mieux une loi qui s'appelle la loi de modernisation de l'économie. Il faut aussi certainement travailler sur les charges pour que les agriculteurs français aient des charges moins élevé. Nous sommes quand même un pays champion du monde de la norme et on pourrait alléger le droit à l'erreur que propose M. Macron. Va dans le bon sens, la loi simplification.
Expliquez-nous ce que c'est que le droit à l'erreur, c'est important.
Alors, le droit à l'erreur, il a été beaucoup demandé, y compris par les artisans. Nous sommes un pays où il y a beaucoup de contrôles. Quand les contrôleurs des administrations viennent dans nos exploitations, ils peuvent trouver un défaut, une faille, un écart lorsqu'ils contrôlent. Et si à la première anomalie, c'est sanctions financières, il y a une grosse psychose par rapport au contrôle, il y a une incidence financière terrible. Là, l'idée développée par M. Macron, et il l'a développée devant notre congrès à Brest en mars, c'est de dire il faut que les contrôles soient pédagogiques. Le premier contrôle, lorsque la règle est nouvelle, contrôleur doit d'abord expliquer, voilà comment vous devez faire, vous n'avez pas tout à fait fait comme il faut, droit à l'erreur, je ne vous sanctionne pas, par contre on vérifiera que vous le mettez en œuvre désormais. Ça, c'est positif. Et pour finir de répondre à Perrine, quand même, parce que les producteurs de lait, comme tous les éleveurs, sont des gens qui travaillent tous les jours 365 jours par an. Pardon,
ils dorment 7 jours un peu quand 7. Même.
Oui, ils dorment beaucoup même. Mais bon, ils travaillent beaucoup. Et cette astreinte-là fait que les éleveurs qui sont hyper près de leurs animaux, qui passent beaucoup de temps, qui se lèvent la nuit pour les vélages, qui accompagnent leurs animaux en permanence, vivent très mal d'être aussi astreints à ce travail-là sans que la rémunération soit aussi élevée qu'ils l'espèrent.
Ce qui est logique.
C'est une juste revendication.
On repart au standard. Lilian nous appelle de l'eau. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons. Soyez le bienvenu.
Oui, merci pour la qualité de vos émissions.
Merci à vous.
Ben moi j'ai 32 ans, je suis installé sur l'exploitation familiale céréalière depuis 10 ans maintenant. Et je voulais juste vous apporter mon témoignage en termes d'évolution personnelle. J'ai repris une exploitation de 200 hectares en céréales, une exploitation assez confortable. Et depuis 10 ans, je suis entré dans la course, hein, j'ai repris des hectares, j'ai investi, je me suis fortement endetté pour encore m'agrandir, et au bout de 10 ans, je fais ce constat qu'en fait, dans cette course mondiale où il faut être productif face aux Ukrainiens, face aux Russes, j'ai la forte conviction maintenant, après 10 ans d'activité, que cette course-là, elle est vraiment destructrice au niveau de l'emploi, au niveau des agriculteurs. Je vois dans mon village, on était une quinzaine, enfin il y avait 15 agriculteurs après-guerre, on n'est plus que deux. Et je me dis, tant qu'on continuera dans cette course à la productivité, il y aura toujours moins cher que nous, et on n'y arrivera jamais. Et parce que, en tant que céréalier, je ne maîtrise pas mes achats d'engrais, mes achats de phyto, je ne maîtrise pas du tout les prix. Et au niveau de la commercialisation, je fais partir mes 1000 tonnes de grains au prix mondial, dont je ne gère pas les fluctuations en fonction des fonds de pension, des traders, des décisions politiques. Et en fait, voilà, je voulais vous apporter ce témoignage pour dire que je ne vois pas la solution dans la course au prix mondial. Et voilà, je voulais également vous dire que ce que j'ai trouvé comme solution, enfin ce qu'on a tenté de mettre en place avec ma femme, c'est de créer un atelier de transformation. Donc on a recréé un petit laboratoire où on transforme les céréales de la ferme en pâte et on refait les marchés, on réapprovisionne des magasins locaux. Et voilà, j'y éprouve beaucoup de plaisir et je retrouve un nouvel élan dans mon métier. Voilà.
Merci. Vous êtes de quel département, monsieur ?
Dans l'Aube. Hein.
Ah, oui.
Merci infiniment, Lilian, pour ce témoignage. Comment vous le recevez, Christiane Lambert ? Il a couru comme ça après le gigantisme, même si là, on n'est pas sur des tailles russes ou ukrainiennes, mais enfin quand même, plus de 200 hectares, dit-il. Il regrette presque.
Oui, il a trouvé une voie de diversification qui le satisfait aujourd'hui. Vous savez, le cours des céréales, il n'est pas coté chez les grands distributeurs français. Et c'est le cours international. La Russie, l'année dernière, a fait une récolte exceptionnelle. L'Ukraine aussi. Moralité, il y a beaucoup de blé sur le marché. Les prix s'affaissent. Alors que dans le même temps, la France a connu une année climatique catastrophique avec beaucoup d'inondations. Donc nous avons eu, nous, une faible récolte, des prix très bas. Et le constat pour les producteurs céréaliers, c'est que dans certaines régions, j'étais dans le Loir-et-Cher mercredi dernier, ce sont des revenus en baisse depuis 3 ans. Donc là aussi, il y a des clichés qu'il faut casser parce que en France, vous êtes céréalier, vous êtes riche, vous êtes éleveur, vous êtes pauvre. Moi, je connais des
petits... C'est un peu ça, oui.
Je connais des petits céréaliers et des grands éleveurs. Je connais des céréaliers pauvres et des céréaliers riches. Je connais des éleveurs riches et des éleveurs pauvres. Donc, adieu les clichés. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai que sur la course au prix bas et au prix moins cher, la France a des handicaps de compétitivité parce qu'il y a eu des choix de haut de gamme sanitaire, environnemental, social, qui, à mon sens, changeront peu ou pas. Donc il faut, et c'est ce qu'a fait l'agriculteur français, monter en gamme. Les céréales françaises aujourd'hui, elles sont plus protéinées, c'est-à-dire que les cahiers des charges qui sont faits par les producteurs, avec beaucoup d'innovation, de formation, ils se cassent la tête.
Ce qui veut dire aussi que les normes finalement peuvent être...
Elles doivent pouvoir nous protéger.
Elles nous protègent, et puis c'est aussi une source de qualité accrue.
Oui, mais si nos concurrents n'utilisent pas les mêmes normes et nous envahissent avec leurs produits, là, il y a distorsion de concurrence. C'est comme si vous mettez un boxeur poids lourd et un boxeur poids plume sur un ring, moi je vous dis tout de suite qui va gagner. Donc nous, quand nous sommes dans des conditions de compétition différentes, nous sommes perdants. Et la carte que joue l'agriculture française depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, c'est justement de monter en gamme, requalifier ses productions, faire des blés que les autres ne savent pas faire, faire des céréales que les autres ne savent pas faire, du blé panifiable qui est aujourd'hui valorisé. Vous voyez comme les boulangers ont évolué pour gagner eux aussi leur vie face à des grands distributeurs qui font du pain à 3 francs 6 sous. Ils ont différencié, ils font des blés avec des mélanges de céréales, des graines de toutes sortes, de pavots, de lin, tout ce que vous voudrez. Donc c'est toujours la montée en gamme qui doit nous guider. Et d'ailleurs, cet agriculteur a fait le choix d'une diversification originale et très intéressante, faire des pâtes à partir de blé dur, qui lui amène d'abord beaucoup de satisfaction visiblement, mais aussi une relation client.
Un travail accru aussi, j'imagine. Mais...
Plus de travail, évidemment, ça change complètement de métier. Et puis il y a la commercialisation, il faut trouver le client, la démarche commerciale, et puis la sécurité sanitaire et alimentaire à assurer en confrontation directe. Mais beaucoup d'agriculteurs font cette montée en gamme, soit individuellement, soit collectivement. Dans mon élevage, depuis 2 ans, nous avons répondu à un cahier des charges mieux disant, parce qu'il y a des attentes consommateurs pour des porcs qui soient nourris avec des graines de lin, qui aient des oméga-3, qui aient des blés plus protéinés, du bien-être animal.
Lilian regrettait d'avoir couru pendant des années pour toujours faire plus grand, produire plus. On voit que, et là on retombe sur la toute première question de ce téléphone sonne, sur la question du modèle. Est-ce que le modèle extensif, il n'a pas déjà vécu ?
Ça dépend comment se pense l'agrandissement des exploitations. C'est comme lorsque deux entreprises se rapprochent. Si elles arrivent à réaliser des économies d'échelle, c'est intéressant. Agrandir son exploitation et pouvoir réduire ses coûts à l'unité produite, c'est intéressant, c'est des économies d'échelle. Acheter du matériel à plusieurs, se regrouper, regrouper les exploitations, faire des assolements en commun à plusieurs. Donc il y a autant de stratégies que d'agriculteurs. Mais si l'agrandissement ne se traduit pas par une réduction des charges internes, effectivement, il faut se poser la question. Il est moins pertinent.
On repart au standard. Vincent nous appelle de Haute-Savoie. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Écoutez, moi juste, je faisais un constat simple. Je travaille dans le milieu agricole, pas en tant qu'agriculteur, mais en tant que fournisseur de prestations pour eux. Et mon constat est assez simple, c'est-à-dire que les agriculteurs travaillent beaucoup, 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 ne sont absolument pas rémunérés à la hauteur de leur travail. Ce sont des gens, pour la plupart, qui sont passionnés par leur travail. Et l'accumulation de contraintes, que ce soit de prix, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés... ils ne peuvent pas vivre, ils sont écœurés et arrêtent. Et la France a un trésor en termes de variété d'agriculture, que ce soit du porc, du bovin, des légumes, tout ce qu'on veut. Quand ces gens arrêtent, il n'y a personne qui reprend derrière. Donc c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut maintenir et organiser la survivance de ce système et rester indépendant, ou est-ce qu'on veut le tuer? Et à côté de ça, on va générer des tas de chômage. Avec quel argent on va payer les chômeurs? C'est payer des gens à rien faire, ça rime à rien. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens passionnés qui demandent juste une petite bouffée d'oxygène pour pouvoir respirer. Les solutions existent, les solutions alternatives pour avoir des solutions, des produits.
Vous pensez à quoi, par exemple, oui?
Les antibiotiques, par exemple, ça fait 20 ans que, 10 ans, on va dire, que l'État dit que les antibiotiques, c'est pas automatique, etc. Il existe des tas de solutions alternatives, naturelles, saines, qui vont pas générer indirectement des coûts, parce que les antibiotiques, ça génère derrière un certain nombre de coûts, et qui pour manger sainement. Et aujourd'hui, rien, l'État, par exemple, l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, commence seulement à se pencher aujourd'hui sur des solutions alternatives mises en place, entre autres, les bio, les écolos, enfin on peut appeler ça comme on veut. Mais
on va rester sur la question du bio, Vincent. Merci de nous avoir appelé, je suis navré de vous couper, mais il y a tellement d'appels ce soir. J'aimerais donner la parole à Guillaume qui nous appelle d'Arles. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir, je suis ravi de pouvoir participer à votre émission que j'écoute très souvent, merci beaucoup. Je me permets de vous appeler en fait, justement, je reprends une entreprise familiale, j'ai 32 ans cette année. Nous avons 70 hectares d'oliviers en agriculture biologique, une quinzaine d'hectares de pommes en agriculture biologique aussi, et un petit peu des céréales pour occuper les terres qui ne sont pas plantées pour le moment. On fait de la diversification, c'est-à-dire qu'on gère tout de A à Z. On plante les oliviers, on ramasse les olives, on transforme les olives en huile d'olive vierge extra biologique, on embouteille nous-mêmes, on commercialise nous-mêmes. On fait aussi des dérivés de l'olive, tapenade, pâte d'olive, pistounade, des
pois de chaleur et
d'exploitation. C'est sans fin, quoi. Mais on se heurte quand même à une concurrence étrangère, même sur le bio, où les normes ne sont pas les mêmes que les nôtres. C'est-à-dire que le bio espagnol est complètement différent du bio français, par exemple.
C'est-à-dire que sur une boîte de tapenade, si on prend cet exemple-là, on peut avoir une tapenade dite bio espagnole qui n'aura pas les mêmes caractéristiques.
Mais pas du tout. Mais ça va. Ils ont des matières actives, des produits dits bio. C'est pareil pour les pommes, mais c'est pareil pour la concurrence pomme Italie et pomme France en bio, je parle, hein, bien entendu. Mmh. Ils ont des produits qui ne sont pas autorisés en France, mais que eux utilisent déjà depuis une dizaine d'années.
Qu'est-ce que vous aimeriez, Guillaume, qu'on ait une espèce d'égalisation européenne des normes?
Mais carrément, je suis pro-européen. J'ai grandi avec cette image de l'Europe où on allait faire une Europe extraordinaire, égale pour tous. Et en fait, c'est pas le cas. Parce que, et c'est le drame est là. Ils sont en train de tuer l'Europe, en fait. Tout le rêve de l'Europe n'est pas appliqué. On a des conditions tellement drastiques en France par rapport aux autres pays qu'en fait, on se bat pas du tout à armes égales avec ces gens-là, quoi.
Juste une dernière question, Guillaume. Est-ce que vous en vivez correctement?
Les 3-4 premières années, ça fait 9 ans que je suis dans l'entreprise, les 3-4 premières années où j'étais dans l'entreprise, c'était beaucoup plus facile. Et là, ben, on a été obligé de passer aussi les pommes en bio, parce qu'au départ, on était en conventionnel sur les pommes. Ben, on est maintenant en bio sur les pommes aussi, parce qu'en fait, les prix de vente sont largement inférieurs aux coûts de revient. Notre main-d'œuvre est tellement plus importante, nous, en France, que ce qu'elle ne l'est en Allemagne, chez les autres pommiculteurs ou en Italie, ben, qu'on n'arrive pas à lutter, en fait. Voilà, donc ça devient problématique. Sur l'année 2016, il y a 3 mois d'affilée où je me verse pas de salaire. Mais comme tout le monde, j'ai des crédits, je dois me payer une voiture, je dois nourrir ma fille. Et il y a un moment donné où... et pourtant, je suis pro-européen, mais ce côté-là de l'Europe me frustre énormément.
Message parfaitement reçu, Guillaume, par notre invité Christiane Lambert. Il y a énormément de choses dans ces deux témoignages. Qu'on reste d'abord, sur la question des normes, et après qu'on reste aussi longuement sur le bio. D'abord, toutes ces normes, on avait commencé à l'évoquer. Harmonisation, faisable, infaisable?
C'est le maître mot. Dans une Europe où le marché est unique, tous les produits circulent, les biens, les personnes circulent, le marché est unique, les règles doivent être uniques. Quand vous achetez, vous devez être sûr que les règles ont été respectées partout de la même façon. Moi, je suis très contente de ces deux témoignages et surtout de l'agriculteur bio qui montre que même en bio, il ne gagne pas forcément sa vie. Parce que ce qu'on entend en ritournelle régulièrement dans beaucoup d'émissions, pas la vôtre, c'est que soyez bio et vous serez heureux, vous n'aurez aucun problème. Il a les mêmes problèmes de distorsion sociale. Il a les mêmes problèmes de distorsion sur le cahier des charges. Donc, quand certains beaux esprits, je ne dis pas parisiens parce qu'il y en a partout, ou politiques nous disent « mais l'agriculture française, elle n'a qu'à se convertir 100% bio, elle n'aura plus de problème », c'est faux. Il a l'air très professionnel, ce monsieur. Vous avez vu comme il explique. Et donc, la vraie difficulté pour l'agriculture française aujourd'hui, c'est que certains pays ont fait de l'agriculture un choix stratégique et fonce tête baissée, avec des distorsions sociales, des salariés sous-payés, des normes qu'ils ne respectent pas, du maïs OGM en Espagne, et les porcs continuent à rentrer plein pot dans notre pays, alors qu'en France, nous n'avons pas du tout les mêmes conditions de production, des antibiotiques qui sont différents en Espagne et en Allemagne, et nous n'avons pas recours à ces antibiotiques.
Mais les Français ne choisissent pas. On fait quoi ?
Il faut que les consommateurs français mesurent tous les efforts qui ont été demandés aux agriculteurs qui répondent. Nous sommes aujourd'hui ceux qui avons réduit de 21% le recours aux antibiotiques en 5 ans en production porcine. Le recours aux antibiotiques baisse en France, il fait plus 18 en Espagne, il fait plus 19 en Allemagne. Nous baissons, eux ils augmentent. Si les Français...
Donc il faut d'abord s'adresser finalement aux consommateurs avant même les politiques?
Bien sûr, mais vous savez, on n'imposera pas tout par la loi. Nous, ce que nous proposons à la FNSEA, c'est un double pacte, économique et sociétal. Nous avons besoin de sentiments plus, Perrine l'a dit, Guillaume et Vincent l'ont dit aussi. Des sentiments plus, c'est des centimes, 2 centimes de plus sur le litre de lait, sur la brique de lait, et hop, ça revient. Donc, des prix en plus, et puis nous sommes prêts à répondre à tous les cahiers des charges si nous avons de l'oxygène, c'est-à-dire du revenu et une capacité pour investir et améliorer les choses dans nos exploitations, parce que quand même, quand on modernise nos exploitations, on répond mieux sur le bien-être animal qui est très attendu aujourd'hui. On répond mieux sur la réduction d'antibiotiques parce que nos bâtiments sont plus modernes, plus ventilés, plus aérés. Les animaux s'y épanouissent davantage. La modernité permet de mieux répondre, mais il faut des centimes et de la rentabilité.
On reste sur cette notion cruciale du consommateur. Jacques nous appelle du Nord. Bonsoir Jacques, soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci de me prendre en ligne. Merci pour vos qualités d'émission qui sont toujours très riches et qui donnent toujours envie de participer. Malheureusement, la communication est toujours difficile. Tellement
vous êtes nombreux à appeler. Sujet.
Voilà, c'est exact. Alors, je rebondis sur exactement ce qui vient d'être dit. Je suis un consommateur, je suis fier d'être français, et j'aime beaucoup manger et bien manger, mais je préfère manger sain, même s'il faut que je paye plus cher. Et ça, je le sais, et je le veux. Je pense que pour réduire les problèmes des porcs qui viennent de l'étranger avec ces fameux antibiotiques, eh bien, il faut manger local. C'est le cas dans le Nord, il y a des chaînes, sans faire de publicité, qui s'appellent Otera, qui permettent de manger avec des viandes, des aliments, du laitage, des produits fabriqués à très courte distance et qui évitent justement tous ces problèmes de pays étrangers qui n'ont pas les mêmes normes et qui me permettent à moi, consommateur, certes, je paye un peu plus cher, c'est vrai.
Mais c'est quoi mieux. Un peu plus cher? Donnez-nous un produit, exemple, produit type.
Le lait, par exemple, le lait qui sera pasteurisé, il va être à peu près 10 à 20 centimes la bouteille, plus que le lait classique qui est en plus, lui, mélangé avec de l'eau et qui sera utilisé dans la cuisine tous les jours. Je prends le fromage frais local, je prends le cochon qui sera transformé par le boucher du coin avec de la viande qui vient de la région. Et ça, effectivement, le prix du kilo, il va être 2, 3, 4, 5 euros du kilo de plus.
Oui, pour de nombreux Français, Jacques, ça peut être un surcoût impossible à gérer. 20 centimes de plus pour un litre de lait, ça fait 1,20 € le pack. Une famille nombreuse, dont les deux parents, je caricature à peine, sont tous les deux à la recherche d'un emploi, c'est énorme.
Alors, ça, c'est vrai, effectivement, peut-être pour le lait. Mais je dis une chose, c'est que il ne faut pas voir à aujourd'hui. Mon bien-être de vie aujourd'hui, ma meilleure consommation, fera certainement que ma santé aussi sera meilleure. Donc peut-être demain, des coûts de vie peuvent être inférieurs à une consommation qui ne sera pas forcément avec des OGM qu'on reçoit de partout. Alors que nous, on aura effectivement mis des barrages à ces produits qui ne sont pas bons pour notre santé, qui sont nocifs. Ça, pour moi, c'est une bagarre, c'est une guerre que l'on doit mener au non-respect de nos vies. Parce que nos vies sont importantes. Alors certes, ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est bon de manger vrai et en plus local.
Merci beaucoup Jacques de ce témoignage. Et avant de vous laisser la parole, Christiane Lambert, je vous soumets juste ce court mail de Lionel qui nous dit « Aujourd'hui, un électricien comme moi ne peut pas s'offrir de bons produits ».
Moi, ce que je souhaite dire quand même, c'est des consommateurs comme Jacques du Nord qui viennent s'exprimer, il y en a de plus en plus. Mais je crois que c'est un enjeu de société aussi. La France a la chance d'avoir des terroirs extrêmement variés. 82 millions de visiteurs français viennent visiter notre pays pour ses beaux paysages et sa gastronomie, des visiteurs étrangers. La France a un rayonnement à l'international pour ses produits français. Nous sommes le pays de la sécurité sanitaire et alimentaire. Et puis, il y a des consommateurs qui ont envie de bien manger. Mais bien manger, c'est aussi accepter de soutenir l'agriculture française. On ne peut pas en même temps dire c'est trop cher, je suis électricien, je ne peux pas me le payer, mais tous les agriculteurs ou 20% des agriculteurs vont faire faillite, ça sera des emplois en moins, des territoires en friche, et tout le monde pleurera. Donc il y a aussi un soutien à ce secteur qui a des qualités importantes, mais qui joue un rôle d'emploi sur les territoires, l'industrie agroalimentaire française qui transforme les produits pour qu'on puisse les retrouver en barquette, en camembert, en tout ce que l'on voudra dans nos grandes surfaces, est une industrie qui emploie énormément de personnes, plus que l'aéronautique. Ça crée des emplois pour les Français. Donc soutenir les agriculteurs et soutenir l'achat français, c'est soutenir l'emploi en France, c'est soutenir des agriculteurs partout sur les territoires, et c'est soutenir aussi la vitalité des territoires ruraux, où quand il y a déclassement et que les gens se sentent mal à l'aise dans les villes, dans les campagnes les plus reculées, eh bien ils deviennent plus grognons, ils râlent, ils votent mal. On a vu le vote aux élections présidentielles, on va voir ce que ça donne au prochain scrutin. Je crois que c'est un tout. Et franchement, beaucoup de pays nous envient l'attrait de la France grâce à ses territoires, ses paysages, son patrimoine culturel, son histoire et sa gastronomie. Et les agriculteurs français, là, c'est un appel vraiment solennel aujourd'hui. On est au point de bascule, là. C'est-à-dire qu'on peut sauver beaucoup de choses, mais franchement, si ça continue ainsi, avec le dogme du prix bas, des distorsions de concurrence et de l'agriculture bashing ou du food bashing en permanence, moi, j'ai des agriculteurs qui me disent toutes les semaines qu'ils ont des bleus au cœur d'entendre dire « on est le pays de la malbouffe, on ne sait pas ce qu'on va manger, etc. »
On l'entend quand même moins,
et ben, tant mieux si on l'entend moins. Ouais. Réhabiliter l'alimentation à la française, qui est remarquable, qui est le fruit du travail et du savoir-faire des agriculteurs, acheter des produits en proximité, mais acheter en confiance des produits français. Quand on va aussi à la restauration hors domicile, quand on va en cantine, quand on va dans des restaurants, c'est pas forcément de la proximité, mais c'est déjà des produits français, et ça, c'est positif.
Énormément de questions d'auditeurs au standard ou sur internet, franceinter.fr nous demande si le bio de supermarché est le même que le bio qu'on a à 2 km de chez soi. C'est exactement le même cahier des charges ?
C'est le même cahier des charges, puisqu'il y a un cahier des charges européen, et puis il y a des adaptations françaises, mais il y a quand même un cahier des charges européen qui normalement devrait être respecté par tous.
Alors on a vu que sur la tapenade espagnole et française, c'était pas pareil.
Oui, mais c'est parce qu'ils utilisent des engrais et des produits phytosanitaires différents, mais sinon sur le fait qu'ils doivent commercialiser dans telles conditions. Enfin, il y a eu aussi en France à un moment des bio qui étaient extrémistes et qui voulaient qu'on soit nous différents des autres en bio. Nous, on veut un cahier des charges européen, et le bio qui est vendu aujourd'hui en grande surface est le même, et les Français, parce qu'ils font plus leurs courses à 85% en grande surface, achètent aujourd'hui de plus en plus de produits bio en grande surface, parce que c'est plus facile d'acheter tout au même endroit, ces produits classiques et aussi ses produits au mais plus 12 à 14% d'achats de bio. C'est en train de monter à vitesse grand V et de plus en plus d'agriculteurs y vont. Et c'est très bien, on évitera d'importer des produits bio venant d'ailleurs.
Il nous reste 1 minute 30, Christiane Lambert. Énormément de questions d'auditeurs autour de la position de la FNSEA sur la lutte contre la souffrance animale. On voit de plus en plus d'associations, je pense à L214, mais il y en a d'autres. Vous répondez quoi? C'est quoi la position de la FNSEA là-dessus?
Engagée, très engagée et au travail. J'ai piloté depuis 4 ans un groupe de travail sur le sujet du bien-être animal, justement pour dire qu'il y avait quelques cas isolés de mauvais traitements, de défauts de soins lorsque les agriculteurs négligeaient, mais que c'est une minorité. L214 a mis en vidéo ces éléments-là qu'ils ont trouvés détectés en pénétrant frauduleusement dans des bâtiments, et pour laisser penser que c'est la généralité de l'agriculture française. C'est faux. D'ailleurs, le contrôle qui s'est passé en Vendée chez le producteur d'œufs, le contrôle vétérinaire avait révélé que tout était en règle. Avoir 2 poules décédées dans un élevage de 140 000 poules, c'est un taux de mortalité normal. Mais vouloir instrumentaliser...
Après, on peut dire que 140 000, c'est un peu trop, hein, excusez-moi.
Ça, c'est votre avis, ouais. Mais si vous voulez des œufs accessibles, il faut aussi accepter qu'il y ait des élevages qui soient importants. Votre garagiste a grandi, votre commerçant a grandi, votre chaîne a grandi. Tout a grandi, il ne faudrait pas toujours vouloir l'agriculture d'avant et le modernisme partout ailleurs, monsieur. Donc je dis simplement que nous sommes au travail et pro-bien-être animal, nous avons été très actifs sur ces sujets et un représentant de la FNSEA siège dans la plateforme européenne qui travaille sur le bien-être animal.
Mais écoutez, merci infiniment, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, donc la première fois qu'une femme occupe ce poste en 71 ans d'existence, pour celui qui est toujours
le premier. C'est jamais arrivé comme président de la République, hein, donc vous voyez, la FNSEA est plus moderne que la politique.
Vous ouvrez la porte, vous ouvrez la voie. Merci beaucoup.